Qu'est-ce que vous voulez ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast des Mitailles, revue de cinéma critique et décoloniale. Fondée à la fin 2025, elle est désormais en ligne. Vous pouvez retrouver les premiers articles publiés par le comité. Ce podcast présent, c'est à la fois une occasion et une manière de prolonger toutes les réflexions qu'on a posées sur nos textes et aussi de permettre aux invités aujourd'hui de débattre autrement, de manière plus spontanée et de vive voix. Je suis Simon Warreau et pour l'échange du jour, j'accueille au micro trois personnes. Orfeo Gagliardini, qui est illustrateur, réalisateur et également aspirant cartoon artiste, si j'ai bien compris.
BDiste, auteur de bande dessinée.
Et à tes côtés, nous retrouvons deux membres du comité de la revue, Oike.
Bonjour.
Bonjour Oike et Corentin.
Bonjour Corentin. Simon.
Merci à vous trois d'être présents. Je souligne également la présence en coulisses d'Elena Alelkeno, qui est la cofondatrice de la revue et présidente de l'association. Aujourd'hui, on va évoquer deux films, entre autres caractérisés par leur ampleur, notamment narrative. Dans un second temps, nous avions envie de revenir sur le dernier film de Pedro Pino, Le Rire et le Couteau, sorti l'été dernier, dont la version intégrale a été présentée en exclusivité le 14 février de cette année. Mais tout d'abord, on va ouvrir le bal avec le dernier film de Shirin Dabis, Ce qu'il reste de nous, qui retrace sur plusieurs décennies l'occupation israélienne en Palestine. Mais cette fois-ci, contrairement au récent film d'Anne-Marie Jassir, il ne s'agit pas d'un récit polyphénique, mais d'un récit à hauteur d'une famille palestinienne sur plusieurs générations. Corentin, qu'en as-tu pensé ?
Ouais, alors c'est intéressant que tu cites le film d'Anne-Marie Jassir, qui est Palestine 36, qui est sorti il y a deux mois, si je ne me trompe pas, maintenant qu'on en parle en mars. Parce que bon, les deux films presque se répondent ou se complètent, je sais pas comment dire, parce que Palestine 36 revient sur un moment en particulier de la lutte, avec plusieurs points de vue, alors que là, l'enjeu, ça va être d'avoir un point de vue sur plusieurs moments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on a une sorte d'inversion comme ça. Cela étant dit, les deux films sont très proches, je trouve, dans la facture, on va dire, visuelle, quoi, parce que c'est voilà, des fresques, quand même, un peu fédératrices, des fresques historiques qui ont... Je trouve, et on va tout de suite commencer, je pense, à avoir une sorte de double discours sur le film, à la fois les qualités et les limites de ce genre d'entreprise, qui va être en premier, bon, pour les qualités, pour commencer sur de bonnes bases, je pense, le podcast aussi. Je pense qu'il y a un enjeu des récits palestiniens, enfin, d'occultation des récits palestiniens qui est très concret, et que tous ces deux films-là, en fait, participent à essayer de contrer, de contrebalancer par bah, une mise en lumière, quoi, une mise en visibilité de tous ces récits-là. Bon, ça, c'est très important. Et ça, je veux dire, si on veut avoir une analyse assez complète sur ces films, on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'évacuer. Donc, il y a déjà ce premier enjeu. Et ensuite, il y a la question de savoir comment on fait, surtout quand on veut s'inscrire dans une lutte qui est encore en cours actuellement, par quelle stratégie, on va dire esthétique, on essaie de servir cet enjeu-là. Voilà. Comment on va essayer de donner une image, quelle image on va donner justement de cette lutte-là, de cette résistance-là. Et les deux films font quand même le choix, qui est quand même assez particulier, contrairement à plein d'autres films qui sortent sur la Palestine depuis deux ans, depuis le 7 octobre, depuis le génocide à Gaza, qui sont plutôt des films assez ardus des fois, hein, un peu, comment dire, je pense à Put Your Soul on Your Hand and Walk.
From Ground Zero, ouais. Not Overland. Et aussi La Voix de In Rajab.
Ouais, bon, c'est des films un peu tortueux, on va pas se mentir. Hein. C'est des films qui peuvent crisper pas mal de gens. Ça part, c'est assez radical quand même, souvent. Où c'est très, Alors que là, au contraire, on va avoir une forme très académique, beaucoup plus fédératrice. L'idée, c'est de toucher un public beaucoup plus large que les films que tu viens de citer. Et donc, voilà, je vais laisser la parole, mais il y a déjà des limites tout de suite à l'entreprise, moi, je trouve. C'est que cette idée qu'on a des films sur le plan cinématographique, déjà, je veux dire, quoi qu'on en pense politiquement, qui sont des bonnes copies, voilà, et que qui font bien le travail, peut-être un peu trop bien, quoi. Je reviendrai après sur d'autres problèmes, peut-être.
Oui, Oike, vas-y.
Quelque chose sur ce qui reste nous. Je pense que quand même, les réalisatrices essaient de mettre en place une sorte de polyphonie, surtout peut-être sur le conflit générationnel entre les membres de famille. Donc il y a trois générations dont les histoires sont racontées. Et je pense que souvent, leur réaction, leur position politique ou leur absence de position politique vient en fonction de ce qu'ils leur ont précédé. Donc je pense qu'il y a quand même si c'est moins disons que diffuse que le récit de Palestine 36, parce qu'il y a vraiment un parti pris d'élargir les perspectives.
Mosaïque un peu.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que formellement et de manière d'articuler la narration pour le rapporter au plus grand public possible, il y a sûrement une proximité. Comme tu disais, c'est vrai que depuis 7 octobre, il y avait d'abord un enjeu documentaire, de documenter, donner des visages, des voix aux Palestiniens, surtout de point de vue d'aujourd'hui, d'une sorte de geste d'urgence. Je pense que on est maintenant dans notre troisième année de génocide, mmh. Donc les récits, les formes ont commencé à changer, je pense. Et comme il y a une lacune très importante sur le plan historique du cinéma, de représenter les tragédies que le peuple palestinien a survécu. Donc maintenant, je pense qu'il y a une autre veine qui commence à se développer de manière plus visible, justement pour combler cette lacune, pour donner voix ou de présenter des récits qui sont aussi qui peuvent être vus et être touchés au public qui ne sont pas concernés par la lutte palestinienne, qui parfois me pose problème, mais j'entends ou je vois pourquoi ces récits sont nécessaires aussi. Donc je te rejoins quand on critique ces films, j'ai tendance à être plus indulgente justement par cet aspect-là.
Et justement, en tant qu'artiste et spectateur, Orfeo, quel regard tu portais sur le film ?
Je suis très d'accord sur l'aspect, on revient un petit peu en arrière, sur la forme, sur un film qui est plus film grand public. Parce que c'est vrai que moi c'est un film, je le disais juste avant, qui a beaucoup tiré les larmes, aussi parce qu'on passe par une famille, et je trouve que, alors moi je viens de Vendée, enfin mon père est vendéen, et on a vécu là-bas toute mon enfance, et ça m'a un peu fait penser au Puy du Fou, la manière dont c'est apporté l'histoire. Sauf que le Puy du Fou, par contre, des fois quand on en parle, en fait aussi on voit comment c'est sublimé, comment ça peut être rendu grand public. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut reprocher au film, mais c'était intéressant, je trouvais que c'était un film sur la transmission aussi des idées politiques, c'est ce que tu disais juste avant, parce que en fait on a cet aspect, oui en effet, générationnel, de comment le grand-père a vu la comment il porte ses idées à son fils qui enfin il va les porter à son petit-fils, et comment ça impacte leur vie. Ça c'est ce que j'ai trouvé vraiment bien pour le coup dans le film, si je peux donner un avis positif là-dessus, c'est que il y a une scène où le père et son fils rentrent à la maison, ils se font arrêter par des soldats colons et qui forcent le père en le menaçant avec une arme à feu de traiter sa femme, de traiter son fils d'enfant de pute quoi. Et en fait je sais pas, quand j'ai vu la scène je me suis dit genre ah ouais c'est une scène dure et tout, mais elle va passer un peu comme plein de scènes dans un film, et en fait non, elle nous suit pendant tout le film, parce qu'en fait le conflit il reste sur des années, le fils va genre développer une haine de son père pour pas s'être défendu, et puis surtout très intéressant l'impact que ça a eu sur l'enfant après, de se dire genre la maman dit à un moment donné ah il voudrait un pistolet en plastique et tout ça. C'est des petites choses que je trouve hyper intéressantes qui se sont développées au long du film.
Mais c'est vrai que le film parle aussi d'une grande fracture générationnelle qui est au cœur de la deuxième partie du film notamment.
Ouais, bah, en fait, c'est vraiment un film d'ellipse, quoi, où des fois, hop, il se passe 15 ans, il se passe 20 ans, il se passe 30 ans. Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est marrant que tu parles du Puy du Fou, parce que le Puy du Fou, c'est quand même, une machine de propagande aussi, sur qui refait l'histoire de France et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, de Palestine 36, à l'époque, c'était il y a 2 mois, des gens comparaient le film, alors, j'ai entendu ça, des gens comparaient le film à, dans son montage un peu alterné, à Naissance d'une Nation. Le film de Griffiths. Alors du coup, on se dit, mais idéologiquement, on veut dire, c'est l'opposé, du coup, ce truc, comme le Puy du Fou. Fin... Et donc, ça pose, je trouve, une question très intéressante, c'est que, quelle va être la stratégie de narration, la stratégie de mise en scène qu'on va employer dans le cadre d'une lutte anti-impérialiste, en l'occurrence, anti-coloniale, etc. Et est-ce qu'on peut prendre l'arme de l'ennemi, tu vois, celui du spectacle populaire,
qui est une arme narrative, hein, pour le coup. Hein.
Ouais, une arme narrative, ouais. comment on raconte le truc, quoi. Mais le comment, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que le film fait des choix, je veux dire, que c'est un vrai nœud qu'on a, même, je pense, dans la revue, donc on fait un travail critique, c'est dans quelle mesure l'efficacité politique de faire un film grand public, elle finit pas, à un moment, par nuire la substance d'une lutte, par enlever sa radicalité ou aseptiser un peu certains contours. Tu cites la scène où, pour le coup, je trouve que la violence elle est concrètement palpable, mais c'est vrai qu'à d'autres endroits, on va venir à certains choix narratifs qui sont faits. Bon, je pense qu'on va spoiler le film.
Je pense qu'on doit parler de cette séquence très centrale dans le film.
Ouais, il y a un moment, on va dire, où le film fait un choix aussi pratique dans le sens narratif, puisque ça bah, comme tu dis, ça tire les larmes, c'est très fort. Émotionnellement, on veut dire n'importe quelle personne avec un peu d'inscription peut se projeter dans cette situation assez facilement, et en même temps ça raconte un truc politiquement qui se discute quoi.
Alors justement, c'est la deuxième partie du film, il y a un basculement qui s'opère. Alors on est en 1988, plus précisément on retrouve la famille qui vit dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Il y a une manifestation qui a lieu contre les forces israéliennes, et ces manifestations se soldent par une tragédie, par le meurtre d'un personnage, plus précisément d'un jeune adolescent, qui du coup va être hospitalisé à Haïfa. Les parents vont
en Israël,
ouais. Du coup, c'est un détail qui est important. Les parents se rendent à l'hôpital et très vite, on comprend, on leur dit que leur fils ne pourra pas être sauvé, que c'est une mort cérébrale et qu'il n'y a pas de guérison possible. Et dès lors, ses parents sont directement confrontés à un dilemme. Est-ce que tu souhaites continuer avec eux ?
Donc, les infirmiers, le médecin lui pose, est-ce que vous voulez donner ou faire un programme de transplantation des organes de votre fils ? Bien sûr, la question que la famille se pose, c'est qu'ils ne savent pas quelle personne, quelle nationalité va recevoir ces organes. Donc, comme ils sont en Israël, ça leur plonge dans un conflit moral.
Il y a de fortes chances que ce soit un Israélien. Ouais, enfin, voilà, quand même, le film suppose ça.
Et donc, pendant une certaine durée, on assiste, c'est vraiment une mise en question de leurs sentiments, de leurs histoires familiales. Mais franchement, souvent, je me retrouve demander des films des choses qu'ils n'ont pas vraiment fait dans leur récit. Mais par exemple, jusqu'à ce point-là, le fait que cette fille soit envoyée en Israël, parce qu'il y a vraiment un système de santé qui peut justement faire guérir, soigner les Palestiniens, est un problème. Donc le film, en fait, met en lumière cette réalité de peuple palestinien qui est encore aujourd'hui très présent et qui continue, parce que même j'ai pas aimé la voix de Indra Jab, contrairement à toi, Corentin, mais le fait qu'il mette en avant cette impossibilité de soigner les blessés sans l'autorisation de forces palestiniennes, de forces israéliennes.
C'est vrai que c'est en commun dans les deux films pour le coup.
Donc ça c'est important, ça c'est un aspect que j'imagine beaucoup de spectateurs ignorent. Donc, le fait qu'il élucide cet aspect est bien, mais pourquoi, j'ai pas compris pourquoi le film a choisi d'opter justement ce micro-récit sur les transplantations des organes. J'ignore, franchement, j'ignore.
Je pense qu'il y avait un double aspect. Il y avait aussi un aspect un petit peu poétique, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais en fait, il y a des phrases très fortes, genre « Et si on met le cœur de mon fils à la place d'un Israélien et qui s'engage dans l'armée et tue d'autres gens, qu'est-ce qui se passe en fait ?» La question, elle est très forte, et je pense que des fois dans le récit, peut-être que le réalisateur, il a embarqué là-dedans, dans ce truc de « c'est très fort l'image de mettre le cœur d'un Palestinien ». Tu vois, à un moment donné, après, elle retrouve l'enfant qui a le cœur de son fils et qui lui dit « mais tu as un cœur palestinien ». Et il dit « mais un cœur, c'est un cœur, quoi ».
Mais moi, je trouve ça très schématique et programmatique. C'est comme si le film lui-même décide de suivre cette choix et juste uniquement pour dire ces phrases.
Et c'est aussi une manière d'introduire des personnages israéliens autres que les soldats à ce moment même du récit. Du coup là, on va à la rencontre des civils, c'est-à-dire des familles israéliennes qui vont pouvoir hériter de ces
organes. Je pense que je suis d'accord que ça aurait peut-être été plus simple de le faire d'une autre manière. C'est-à-dire que tous les moments où il y a beaucoup de problèmes par rapport au papier, et qui sont terribles en fait, genre les parents se mettent à chercher la carte d'identité de leur fils juste pour pouvoir l'envoyer en fait,
alors qu'on
a un enfant qui en fait on a un moment où l'enfant il est entre la vie et la mort et on est en train de chercher des papiers, enfin c'est complètement fou, c'est très tendu, et je pense qu'en fait dans toutes ces séquences là en fait on aurait peut-être plus, un peu plus l'étendre, et alors ça aurait été une fin tragique hein, donc qui amène quand même à la mort. Mais qui aurait pu se passer aussi en fait dans cette institution là, en parler un petit peu plus. Ça aurait pu être intéressant plutôt que de se diriger vers l'hôpital en Israël, puis après on fait des bonds dans le temps, on va recroiser la famille, on a plein de scènes déchirantes, la mère qui veut retrouver les gens qui ont hérité du corps de son fils. Enfin bon, ça ramène loin. Pourquoi ? Est-ce que c'est la meilleure des manières ? Ça après, je sais pas.
J'ai ma petite idée. Non mais enfin en tout cas, moi je trouve qu'il y a quand même un horizon dans le film, et on arrive au truc un peu, c'est que je trouve tu dis pourquoi ils font ce choix là, pourquoi tout converge vers ce dilemme moral, parce que je pense que c'est une manière d'évacuer la matérialité du conflit ou de la situation, qui est bien dépeinte par ailleurs dans d'autres situations, vers une question morale, ou une question symbolique. Ou une question de, au final, est-ce qu'on n'est pas tous humains, est-ce qu'on n'a pas tous un cœur. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, ouais, une stratégie. Ouais, et ça, je m'en suis rendu compte à partir du moment où la mère, en fait, donc, rencontre l'Israélien qui a bénéficié du don d'organes de son fils, donc des années après. Et en fait, on se rend compte que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, c'est que tout le film est narré à cette personne, du coup.
Oui.
Le personnage principal qui est joué par Shireen Dabis, la cinéaste, et a une voix off, et cette voix off est adressée à un Israélien. Et donc, tout du coup, je me dis, mais attends, c'est-à-dire que tout le film, je suis censé être dans la position d'un homme israélien qui a bénéficié d'un cœur d'un Palestinien tué. Alors du coup, je me suis dit, c'est super tordu. Enfin, vraiment, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, attendez, le niveau de choix symbolique est hyper... Enfin, c'est pas anodin du tout. Et du coup, je me dis, il y a quand même un problème faire ces choix-là pour sensibiliser et en même temps d'évacuer la dimension politique du conflit. Et en plus, ce dialogue, je pense qu'il nous a tous beaucoup marqué, cette confrontation dans le café, là. Je crois que c'est à Jaffa, hein, c'est pas à Haïfa.
C'est dans la Jaffa actuelle, du coup, voilà. annexée à Tel Aviv.
Et du coup, à ce moment-là, ils ont une conversation. Au moment, il est renvoyé dos à dos, le martyr du peuple juif et le martyr palestinien, dans le sens, vous souffrez aussi, mais vous comprenez que nous aussi, on a souffert. Et donc, comme s'il y avait une sorte de mise à niveau, comme si ça avait un rapport.
Ouais. Et puis, elle lui dit, mais nous, on vit votre peine tous les jours, ou des choses comme ça. C'était un peu étrange ce passage-là. En fait, je trouvais, moi, en le regardant comme personne qui aime beaucoup écrire, qui aime beaucoup consommer de la fiction, tout ça, je me disais, genre, ouais, le dialogue, il est pas hyper bien écrit, quoi. Le personnage, le personnage qui a reçu le cœur est un peu inhumain dans cette situation-là. Je me dis, la conversation, elle aurait pu aller tellement plus loin. Et après avoir tout dit, tout ce récit-là, et qu'on a ce petit dialogue pour finir, elle s'en va. Je me disais, ah non, c'est dommage, c'est presque là que le film pourrait commencer, en fait.
Mais justement, c'est pour rebondir sur les propos de Corentin. Le fait qu'elle s'en aille finalement sans vraiment résoudre cette discussion, il y a une sorte d'énergie de résignation qui reste en fait derrière cet échange et qui imprègne un peu cette fin de film.
Oui, bah la fin est quand même super chelou. Enfin, quand vous verrez le film, les personnes qui nous écoutent, vous verrez qu'il y a quand même un côté un peu mélancolique ou un côté presque film de fin d'été.
La réalisatrice ne sait pas comment finir le film, je pense aussi. Il y a une vraie faiblesse de rythme vers la fin, je pense. Parce que c'est mélancolique, bon, et après...
Un chemin trop compliqué, en fait, presque. Oui. Enfin, le chemin moral...
Qui enchaînerait presque plusieurs fins possibles. Il y a le retour dans la ville, il y a effectivement cette dernière discussion avec Harry, l'enfant israélien qui est devenu adulte. Il y a cette promenade dans l'ancien quartier où a vécu...
On voit trop les années défiler d'un coup.
Salim, c'est... Voilà.
Oui, en plus, je pense que mémoire historique, mémoire urbain est un aspect très, très important dans la représentation des peuples palestiniens. Alors que film n'est réussi pas du tout, c'est pareil, je pense. C'est vraiment, c'est juste, tout se passe par les paroles des personnages. Donc on ne rentre jamais dans la matérialité ou des mémoires de lieux.
C'est vrai, à part dans le segment central du camp en Cisjordanie, où là, pour le coup, quand on suit l'enfant qui se déplace, qui monte sur les toits, où qu'on cherche son... Enfin, là, je trouve qu'il y a quelque chose du territoire qui se joue, et on sait à quel point c'est central dans ces questions de colonisation. Mais pour le coup, quand à la toute fin, quand ils reviennent à Jaffa, ils disent rien n'a changé à Jaffa, rien n'a changé, c'est quasiment les mêmes rues et tout, c'est bizarre, enfin, tout a changé quand même du coup. Enfin, je veux dire, c'est trop bizarre d'avoir
pris. Oui, c'est comme une sorte de carte postale touristique, ça devient vraiment très unidimensionnel. Et je pense que c'est aussi un problème de la première partie avant Nakba, où la famille a été déportée. Donc, toutes les imageries de cette époque vraiment sont des idées très. Des idées reçues sur les activités de peuple palestinien. Ah oui, les orangers, machin. Donc, il n'y a pas vraiment une profondeur dans leur représentation.
Ouais, c'est très symbolique, quoi.
Et de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que peut-être tu aurais aussi souhaité que le film ne se concentre sur une période en particulier plutôt qu'elle retrace plusieurs décennies, c'est bien ça?
Oui, ouais. Surtout, je pense qu'on est d'accord que la deuxième partie dans le camp de réfugiés est formellement et narrativement le plus réussi. Donc, j'aurais préféré vraiment être plongé dans cette micro-récit de famille, de conflit générationnel, où grand-père, père et le petit-fils représentaient des aspects assez contradictoires, mais qui se joignent dans cette fresque. Donc, ça aurait pu être beaucoup mieux, je pense.
C'est vrai, ouais. Parce que ce petit segment-là, quand j'y étais arrivé, je sais que c'est un moment où genre, j'ai regardé où est-ce que j'en étais dans le film. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me raconter de plus? Et quand je voyais les nouvelles idées d'amener, je me disais genre, oh, pas obligé, quoi.
Bah, c'est clair. Alors, en plus, moi, je voulais ajouter un dernier truc, c'est que le film a été réalisé avant le 7 octobre. Donc, en fait, enfin, il a été écrit avant le 7 octobre, etc. Et donc, il se termine en 2022. Vous savez, quand il regarde Le coucher de soleil, il se termine en 2022. Donc, alors, c'est un choix... Enfin, pas déroutant, je veux dire, c'est un fait. Après, les films mettent du temps à arriver. Bon. Mais du coup, je trouve que ça rend le film... Enfin, ça témoigne que l'issue du film ne correspond pas du tout, en fait, quelque part, à la réalité concrète de ce qui s'est passé depuis la fin du film. Comme si le film, en gros, s'achevait sur une vision un peu idéale, du sens de peut-être qu'on va quand même s'entendre à la fin. Et qu'en fait, qu'est-ce qui se passe?
On dirait un film d'après-guerre.
Mais exactement,
on dirait un film d'après-guerre alors qu'on est en plein génocide, et ça fait bizarre, parce que c'est pour ça l'aspect Puits du Fou. Donc
c'est un film d'avant-guerre.
C'est que quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un petit peu genre ah oui, ok, bon ben voilà, il s'est passé tout ça. Je sais pas. Nous, en fait, on peut vraiment s'identifier parce qu'il y a un aspect genre ah 14-18 ou je ne sais quelle guerre mondiale, et ah ben voilà, et puis mon grand-père revient sur place, il prend des photos devant son vieux bâtiment détruit, et puis bah fin de l'histoire.
Il met sa médaille.
Sauf qu'en fait, genre un an après, il y a enfin. On est complètement dans autre chose, quoi. Genre, il y a le génocide à Gaza. Enfin, on est. Donc ça, c'est très, c'est à prendre en compte. Et je pense que malheureusement, les films sortent donc voilà avec beaucoup de retard. Et d'un coup, on peut réinterroger leur pertinence.
Vraiment. C'est pas au service du film, disons, que le film se termine de manière, on va dire, confortable, presque agréable, on va dire, réconfortante. Enfin, je veux dire, il y a une forme de résolution. Alors que nous, on est dans une situation politique extrêmement inverse.
Enfin, et là, c'est intéressant d'en parler tous ensemble, parce qu'au début, quand je disais « Ah oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de rétropédalage dans la forme », ben en fait, oui, parce que c'est un film qui date, en fait, et qui correspond plus à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, on dirait un peu « Oh bon, on vous a fait assez de films un petit peu morbides sur la Palestine, bon, on va vous faire des films un peu mainstream sur le sujet, vu qu'on n'avait pas pris le temps de le faire avant ». Donc ça tombe pas forcément, après c'est pas forcément de la volonté de la personne qui l'a réalisé, mais ça...
C'est les temporalités de la fiction et du documentaire, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on se dit quand on a un génocide en cours, le documentaire il est beaucoup plus vif à saisir un truc, alors que la fiction, surtout quand on a une ambition un peu académique, tu vois, d'avoir une reconstitution historique, faut louer les voitures, les machins, enfin c'est super long quoi, Palestine 36 c'était pareil, ça a été tourné avant, en fait, et enfin, ça a commencé à être produit avant, et après ça a été un peu contemporain, mais disons que dès que vous embarquez dans une réalisation de films ultra coûteuse et tout, tout est plus long, donc du coup est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu en décalage quelque part avec comment l'époque évolue, et on sait à quel point là-bas ça va vite. Mais je trouve que c'est vrai que le contexte de sortie du film, bizarrement, alors qu'on pourrait dire que c'est le moment de parler de ça, lui rend pas service quelque part, parce que le film, peut-être qu'on l'aurait reçu peut-être différemment il y a 10 ans, et encore peut-être que du coup on se serait un peu voilé la face, mais là du coup il nous paraît un peu
décalage. Il y a 10 ans, je pense que ça aurait été pas mal, et on l'aurait un peu vu comme un film en se disant genre ah c'est fou ce qui s'est passé, c'est un film qui fait le devoir de mémoire, tout ça. Alors que là, on se dit, mais qu'est-ce qui... Mais il m'embarque où ? Genre là, c'est une histoire de famille qui, elle, a bien vécu peut-être le truc, mais en ce moment, il y a des gens qui en meurent, quoi. Donc, c'est un peu...
Oui, tu voulais rajouter quelque chose avec eux ?
Je sais pas. Parfois, je doute de ma proposition, parce que j'ai l'impression qu'avec les images d'actualité, même il s'agisse de documentaires, je pense qu'on est tellement débordé parfois par ces images, et je me demande si on oublie aussi de questionner de questionner, comment dire, de donner à la place d'autres types d'images qui ne seront pas d'actualité. Même si je suis d'accord avec tous les problèmes que pose le film, je pense qu'il y a quand même, la fiction doit aussi avoir une place ici, dans ces paysages, je pense. Je ne sais pas comment, je n'ai pas d'exemple concret pour vous montrer, oui, ça doit être comme ça, peut-être les films d'Elia Suleiman, qui n'a d'ailleurs pas réalisé un film après depuis longtemps. Donc j'ai pas d'exemple concret, mais je pense je défends quand même la légitimité de faire un film de fiction.
Tu fais bien, mais d'ailleurs ça me permet de citer From Ground Zero, qui est un ensemble de courts-métrages où il y a 22 courts-métrages et en fait où il y a un mélange de documentaire et de fiction. Alors du coup, il y a beaucoup plus de documentaires, on peut analyser et se dire qu'on comprend que le choix premier, parce que c'est des films faits par les Gazaouis pour le coup. Et donc en fait, et puis depuis le 7 octobre, donc là c'est un peu l'extrême inverse, on a la perspective interne, et ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même des fictions. Alors c'est des fictions, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est des fictions des fois qui peuvent être un peu déroutantes parce qu'elles vont utiliser des codes très mélodramatiques, des fois très emphatiques avec de la musique, vous voyez le genre de plan avec un gamin qui court dans la ville, dans les bidonvilles, etc. À la fin il se passe quelque chose. Donc à quel point ça peut être assis un peu scolaire, etc. Mais évidemment que quand je vois ce type de court-métrage, de fiction, c'est incomparable.
C'est pas ça qui vient en tête.
Ouais, exactement. Ouais. Je vois pas le film en tant que film, c'est que je vois le film comme une manière, tu vois, d'exorciser un truc qui se passe en même temps par la fiction. Et quand bien même la fiction elle est un peu hollywoodienne, j'ai tendance à plus l'accepter parce que la démarche est différente. Alors que là, je trouve qu'il y a quand même des choix de narration, de fiction justement, qui sont quand même assez forts dans un sens qui personnellement me convient pas.
Ouais.
Après, par exemple, je serais curieuse d'entendre un ou une Palestinien qui voit ce film et qu'est-ce qu'il pense d'une personne âgée, par exemple, qui voit ce film. Donc ça, je suis curieuse de savoir parce que parfois, on est tellement dans l'analyse, les théories, les critiques. Et je pense qu'un autre public de ce film pourrait aussi bien les Palestiniens qui vivent en diaspora ou en Gaza aussi. Donc, je ne sais pas si ce film pourrait être montré à Gaza.
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que la réalisatrice l'explique elle-même que nombreux de ses récits, elle les puise dans les témoignages de ses proches et de la diaspora palestinienne notamment qui vit aux États-Unis. Ce serait intéressant effectivement de confronter ces récits-là aux récits des personnes qui vivent sur place et qui ont été des témoins et des victimes directes des événements racontés par le film.
D'ailleurs, je veux juste ajouter un aspect, parce que Simon a une hypothèse ou une analyse très intéressante dans son texte. J'invite nos écouteurs
sur
emitai.fr. C'est que tu dis que la réalisatrice évacue les personnages qui sont politiquement engagés. Donc pour arriver justement à cette troisième partie qui se concentre davantage sur l'aspect moral. Donc j'aimerais un peu discuter, d'entendre vos avis sur cet aspect, parce que moi, je n'avais pas pensé à ça en regardant. Pour moi, ce n'était pas une décision consciente de sa part, je veux dire.
Alors, oui, effectivement, j'avais émis cette hypothèse. Alors parce que je pense que ça sert aussi le récit. Et en même temps, je me suis rendu compte, je me dis tiens, les deux personnages explicitement résistants, donc le grand-père Sharif et le petit-fils Nour, qui du coup perd la vie lors de la manifestation, dans la troisième partie, on a perdu tous ces personnages, qui ont appelé sans cesse à résister, à lutter, à revenir sur les terres qui ont été volées. Et je me dis, ça produit quelque chose d'assez perturbant quand on la colle à ce récit de retour en Israël, finalement, en terre israélienne colonisée. Et je me dis, tiens, alors c'est très perturbant, parce que du coup, les personnages qui nous restent, ce sont des personnages qui ont perdu symboliquement, mais aussi en tout point. Et je me dis, c'est une grande violence, tout ça, quand même.
Bah, en fait, il y a en plus, je pense que très, très concrètement, le film essaie de nous dire aussi que les personnes les plus engagées dans la lutte n'ont pas une espérance de vie. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a un truc très concret où, en fait, tu prends plus de risques et aussi tu... Il y a un peu... Et puis, alors, c'est ça qu'on ne sait plus faire la différence entre ce que le film nous dit de la situation réelle et ce que le film choisit de faire pour son récit, c'est aussi de se dire bon, bah, moi, si je veux, si mon point d'arrivée, c'est le coucher de soleil, parce que c'est ça, hein, le coucher de soleil en bord de mer à Jaffa avec nos deux personnages qui se tiennent la main, parce que c'est ça quand même, le plan de fin, c'est quand même un truc de ouf. Si je veux arriver à ce chemin-là, je suis obligé quelque part aussi, bah, pas d'exclure ou d'évacuer, enfin on le dit comme on veut, mais petit à petit, de. Bah, que des personnages ne gardent pas une sorte de grief ou de colère, ou enfin ce plan-là il n'aurait pas été possible avec un personnage, avec l'enfant encore vivant. Enfin, je sais pas
ça
comment
dépend
dire.
Comment ça a été écrit. C'est vrai que j'imaginais pas moi comme ça. Je me disais plutôt au fil c'est arrivé à ça. Après je sais pas comment ça a été écrit. Mais par contre moi je trouvais qu'il y avait un petit truc intéressant là-dessus. C'est alors c'est déplorable l'évacuation de ces personnages-là. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de voir comment le point de vue, par exemple, du père, qui était plutôt désengagé de tout ça, évolue. Et il n'aurait pas eu cette place-là si son fils et son père étaient toujours là. Et donc, c'était intéressant de pouvoir suivre un petit peu. Et je pense que c'est aussi ce qui en fait un film grand public, c'est que j'imaginais bien des gens qui se sont pas trop posé les questions sur le sujet. Être face à un sujet où ils sont là genre non mais oui je m'identifie complètement et je vois comment le père il était comme moi, il pensait pas forcément à ça et je me mets là-dedans. Donc c'est pas forcément un film, enfin c'est pas un film très militant qui
ça
va
s'adresse
t'amener
pas aux
là-dessus.
Radicaux, ça que tu veux dire.
Voilà c'est ça, voilà, mais ça peut amener à une prise de conscience peut-être aussi.
Ouais, bah c'est toujours l'enjeu hein, de ce genre de film. Enfin, on en arrive souvent à ce débat. Est-ce que
ouais,
c'est, est-ce que
on
ça,
vient se bloquer au final,
concrètement,
est-ce qu'il faut le faire ou pas ?
Est-ce qu'on utilise ce film pour ça ? Et nous, tu vois, quand on a une exigence de cinéma en lien avec la politique, on est obligé d'aller plus loin ou de pas s'arrêter à ça en tout cas.
On peut très bien se poser la question, est-ce que tous les films sur les Palestiniens doivent traiter de la lutte, par exemple ? On peut se poser cette question, tout à fait. Moi, je trouvais que... Je pense que c'est du point de vue de spectateur, c'est plus difficile de s'identifier à des militants. Et le film, c'est vrai que ne le glorifie pas ou ne le permet pas d'identifier ou au spectateur de se mettre en place de révolutionnaire. Donc, il est, même parce qu'il est jeune, Nour, quand il est politiquement engagé, ces engagements peuvent être vus comme une sorte de folie de jeunesse, une sorte de... Le film ne donne pas vraiment ampleur ou un poids à son engagement. Donc, je pense que c'est un aspect qui aurait pu être mieux traité. Mais en même temps, je pense que il y a un... Peut-être le titre du film, c'est ce qui reste de nous. Dans la position du père, Salim, à la fin, je pense... Peut-être les spectateurs ne remarqueront pas, mais il y a quand même une défaite dans sa position, même si ce n'est pas très explicite, même si on le voit, oui, donc il a survécu, il est à Jaffa, il est là. Mais je pense que son expérience est une défaite.
Ouais. Et ça se trouve, ce n'est pas un problème. Enfin, en soi, le film aurait très bien pu justement à culminer sur une résignation ou sur quelque chose... de plus de pas forcément idéaliste, enfin, on n'a pas envie d'avoir forcément des films où à la fin la Palestine gagne, enfin, on vit pas dans une fable quoi. Mais moi ça me fait penser, enfin From Ground Zero est un très bon exemple, c'est-à-dire dedans il y avait des fictions, il y avait aussi des documentaires qui étaient qui ne proposaient pas d'analyse structurelle du conflit, vous voyez ce que je veux dire, enfin on a des films qui sont faits comme ça. Je me rappelle d'un court-métrage, j'ai plus le nom exact du court-métrage, où c'était un jeune qui était sur un tas de gravier et en fait on se rend compte qu'il y a sa copine juste dessous, enfin un truc vraiment dur et où il n'y a pas besoin d'analyse, et je trouvais le film magnifique parce que si c'était des choix formels très forts, un téléphone, un plan fixe, tu vois, et donc peut-être qu'au final on fait un peu le procès.
C'est ce que peut faire du court-métrage aussi.
Ouais, parce qu'il y a tu peux tenir quelque chose formellement beaucoup plus radical en très peu
entre
de
guillemets,
temps.
Hein, ouais. Peut faire, hein, c'est on s'entend, mais je l'entends beaucoup dans le domaine du cinéma quand je peux discuter avec des gens, cet aspect. Bah oui, mais vu que c'est un film grand public, tu te rends compte, machin. Il y a des questions
faut rentabiliser,
coup, qui viennent complètement polluer. Enfin, je veux dire, je pense que si tu en discutes avec les gens qui ont fait ce film-là, oui, pourquoi pas faire un film plutôt bah, là, où ça se finit assez radicalement et tout ça. Oui, mais non, mais tu te rends compte, pour le spectateur, ça, donc il y a... On veut le cajoler,
ouais,
le spectateur aussi,
on veut
le satisfaire, qu'il ait un récit à la fin où ils se disent, mais finalement, ah, mais oui, ils ont raison, et en fait, tu vois... je pense que c'est délicat, mais ce film a besoin d'exister pour le public aussi qui l'a visé.
Difficile de savoir. En tout cas, ce qu'on reproche au film, peut-être pour conclure, peut-être c'est même pas tant les choix en fait finalement qu'il fait, c'est aussi la forme qu'il prend, quoi. Enfin, je veux dire, il aurait eu le film, il aurait pris le même scénario avec quelque chose de plus travaillé, etc. Je veux dire, de moins automatique des fois dans la manière de filmer les dialogues, les scènes, les situations. Peut-être qu'on aurait été peut-être plus emballé. Quand bien même le scénario de base, il prend des directions qui sont quand même plus ou moins impérieuse.
Et juste peut-être ajouter une dernière note, pardon. Par exemple, il y avait des personnages dans la première partie, les soeurs, frères et sœurs. Donc parfois, j'avais l'impression que le film dispensait de personnages qui auraient pu être présents. Je pense que ces transitions d'une période à l'autre, d'un personnage à l'autre, ne sont pas très subtiles. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouvais...
Elles sont pas du tout subtiles, ouais. C'est des jump cuts directs. Ouais. Paf, on passe à une autre époque.
Et on apprend beaucoup plus tard que ses frères et sœurs vivent désormais au Canada, à l'étranger.
Parce que si tu mets quelqu'un à l'image, donc forcément, c'est pas une règle narrative, mais juste... donc pourquoi cette personnage existe donc, au départ, et pour être totalement supprimé de l'histoire. Parce que quand même, on le voit, ils ont une présence sur l'écran, mais pour disparaître complètement.
On va changer cette fois-ci de continent et de contexte, puisqu'on va évoquer un film qui est sorti l'été dernier et qui est disponible en DVD Blu-ray depuis le 3 mars dernier. C'est Le Rire et le Couteau de Pedro Pino. Alors, comme je le rappelle, la version intégrale a été présentée à Paris le 14 février dernier, version intégrale de 5h30. La version courte ne dure que 3h30. De quoi ça parle ? Alors, c'est un homme, Sergio, qui arrive dans une métropole d'Afrique de l'Ouest pour travailler pour une ONG en tant qu'ingénieur environnemental. Il doit suivre la construction d'une route entre le désert et une réserve naturelle. Et il va progressivement se lier à des habitants de la ville, plus précisément à deux membres d'une communauté queer. On retrouve Diara et Guy, avec qui il va développer une relation quelque peu complexe. J'ai envie de proposer de tendre le micro à Orfeo, parce que il me semble avoir compris que la Guinée-Bissau est un territoire qui n'était pas étranger.
Exactement. Alors moi, je suis métisse d'une maman bissau-guinéenne et d'un papa français d'origine italienne, d'où le nom Gagliardini. Ce film, moi, je l'ai trouvé intéressant, mais surtout sur une des parties qu'il proposait qui était assez intéressante, c'est que c'était à la fois une fiction, et il nous emmène clairement sur une fiction. Le début, moi, je me croyais dans Chungking Express, un peu avec Diarrhea, avec sa perruque et tout ça, dans le marché de Bandim, et puis dans des paysages que je connais, donc il y avait un aspect assez excitant à voir ce paysage défiler, ces récits-là. Et une partie plus documentaire, que moi, j'aimais bien quand le récit prenait un pan un peu plus documentaire, mais c'est vrai que... je trouve qu'il y a eu des choix un peu étranges de fait par rapport à ça. Parce que on nous laisse un petit peu vadrouiller entre les deux. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé.
Quentin ?
Non, mais c'est très bien d'avoir ton regard, parce que je pense que c'est typiquement le genre de film qui interroge justement ça, en fait. Enfin, le décalage qu'on peut avoir aussi avec un territoire, etc. J'imagine que tu as le synopsis que tu as repris, Simon, qui parle d'une capitale, une métropole d'Afrique de l'Ouest. Enfin, il y a un truc un peu fumeux, quoi. Enfin,
sans la nommer directement.
Exactement, c'est souvent ça, les synopsis. Hein. Je sais pas pourquoi ils veulent pas nommer exactement le pays, comme si on n'allait pas savoir ce que c'est. Enfin, c'est quand même bon. Bref, c'est un autre sujet. Mais je pense que c'est un film, déjà, pour être tout à fait honnête, l'été dernier, qui a fait beaucoup parler déjà dans la critique. Il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de retours. Moi, je l'avais vu deux fois à l'époque, en festival et puis à la sortie en juillet. Alors, j'ai pas vu la version longue, ça vous en direz plus hein, à ce sujet. Mais disons que le film, moi, la première fois que je le vois, je suis saisi tout de suite. Enfin, c'est un film très, très séduisant dans la manière dont justement... on parlait d'un film très satisfaisant sur ce qui reste de nous, enfin en tout cas qui essaie de régler des soucis. Là, pour le coup, c'est un film qui est un peu entêtant, qui laisse des trucs comme ça un peu en suspens, tu vois, comme un peu en pointillé. Des fois, même la fin des séquences, je ne sais pas si vous voyez comment c'est monté un peu à chaque fois, on a l'impression que ça s'interrompt Alors qu'on aurait pu, que ça aurait pu continuer 10 minutes de plus. Enfin, il y a quelque chose qui est pas résolu à chaque systématiquement en fait. Dès qu'on va avoir une ellipse, il y a quelque chose qui est un peu laissé comme ça. Et puis à force, ça s'accumule. Et c'est pour ça que ça dure 3h30. Ça pourrait durer 4-5 heures. Moi, c'est ce que je m'étais dit déjà la version courte entre guillemets, c'est que ça pouvait durer 2 heures de plus. En fait, ça changerait pas fondamentalement peut-être les choses parce que l'enjeu, c'est précisément d'ajouter des couches. C'est très très bavard. On n'arrête pas d'invoquer tous les sujets un peu épineux, justement, de la présence d'un personnage blanc, donc portugais en l'occurrence, dans un territoire anciennement colonisé par le Portugal. Donc on brasse des sujets historiques, des questionnements raciaux, identitaires, politiques, sur l'écologie, sur l'impérialisme par l'écologie. Enfin, il y a tellement de choses qui sont... Je pense que le film est arrivé à un moment, et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup parler de lui, ou forcément, enfin, la création de la revue, elle en témoigne aussi, à un moment où il y a des questionnements qui rejaillissent de manière très forte dans les débats de société, dans la culture en plus, peut-être avant même le reste, hein, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se joue avec ce film, je trouve, qui est hyper intéressant et très stimulant, et c'est pour ça aussi qu'on voulait en reparler, quoi, je pense, mais voilà, pour commencer à poser un peu ce truc-là, je trouve que c'est important... le film marque un moment important, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais enfin, en tout cas, depuis qu'on en parle, c'est quelque chose comme ça qui me reste en tête personnellement.
Que tu as pu découvrir la version intégrale le 14 février dernier, et tu as également, tu t'es entretenu avec Pedro Pino, un entretien à retrouver sur le site d'Emitaille.fr.
Oui, j'ai passé pas mal de temps avec ce film, je pense.
Deux jours au moins. Ouais.
Non, mais pour faire une chronologie, moi, j'ai découvert le film à Cannes. Donc déjà, je pensais que c'était un film fait par une intelligence très pointue. Je veux dire que parfois, on reproche de films auteuristes, mais je pense que c'est précisément par définition un film autoriste qui est marqué par une vision très, très nette de son auteur. Donc, c'est un film où tu vois que le cinéaste veut précisément une chose très particulière. Et à commencer par le protagoniste, le personnage Sergio, même si dans la version longue, peut-être que vous aussi, celles et ceux qui nous écoutent, ont découvert. Les autres personnages, Diarra et Guilherme, prennent plus de place dans le deuxième. C'est un film qui nous fait suivre à travers Sergio. Donc ce paysage, ces gens, on découvre à travers le regard de Sergio. Quand on le voit, on pense d'abord, c'est comme juste un homme blanc, quoi. Donc un homme blanc, c'est très stéréotype dans le cinéma, art et essai, que ce soit mainstream, donc des hommes blancs qui vont d'autres territoires exotiques pour construire des choses, pour résoudre le problème. Donc c'est assez stéréotype. Mais Sergio, on n'apprend rien sur lui. On le laisse comme on le découvert au départ du film. Et cet effacement d'hommes blancs à travers le récit était la première chose qui a vraiment attiré mon attention. Et la deuxième chose, je pense, que je trouvais très intéressante, c'était ces séquences très longues qui sont en apparence didactiques, où certains arguments, certaines idées sur le colonialisme, sur le capitalisme mondial sont prononcés par des personnages dont nous ne sommes pas habitués à voir dans cet état, dans cette position d'autorité.
C'est la deuxième scène de boîte de nuit, là, c'est ça, où il y a un espèce d'investisseur bissau-guinéen qui fait un peu la leçon à Sergio en disant « Mais même nous, on est du côté du capitalisme, on n'est quand même pas du côté de votre colonialité. » Enfin, c'est très tortueux à ce moment-là, on ne sait plus trop quoi penser.
C'est comme ça, mais après, ces scènes-là ne sont pas là pour résoudre un problème. Donc, on n'apprend pas forcément grand-chose où le film ne dicte pas à quoi penser justement sur ces dilemmes. C'est un mot que Pedro Pino a utilisé lors de notre entretien, mais il ne donne pas de réponse. Et là, je trouvais ça très intéressant parce qu'il l'apporte dans des situations assez banales, assez quotidiennes, et brise un peu l'aspect un peu, artsy du film. Donc on se sent cogner quelque chose et en tant que spectateur, je dirais presque un effet brechtien, quoi. quoi. Je ne sais pas si vous serez d'accord sur ce point, mais une sorte d'aliénation par rapport à... C'est comme s'il nous parle, mais finalement, on revient au récit.
Je trouve que tout ce qu'on a pu dire, donc on a pu dire plein de choses, c'est assez symptomatique du film qu'on a pu voir, parce que c'est un film qui pose plein de questions, qui à des moments, il y a des grands moments de discussion et tout ça, ou même de monologue, hein, plus parfois. Moi, personnellement, ce film-là, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est alors, donc on a cet homme blanc qui s'efface, mais quand même raconté par un homme... Enfin, quand même, on suit cet homme blanc. On aurait pu choisir de faire un film raconté par une route, ou raconté par un arbre, ou raconté par je ne sais quoi, mais c'est raconté par un... Enfin, on suit un homme blanc là-dedans. Donc, de toute manière, il peut pas s'effacer, sauf que bah, tout le film, il essaie de s'effacer, et je trouve que, de ce que tu me disais un peu d'entretien avec Pedro Pino, malheureusement, alors ça a l'air d'être un mec super qui réfléchit très bien, mais du coup ça se ressent un peu trop avec ces personnages, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque scène tout le monde s'excuse, enfin les personnages s'excusent d'être là, quoi, genre et en fait il désamorce tout ce qui pourrait faire de ce film un film colonial machin, parce qu'il sait qu'il marche sur des œufs. Et du coup, moi, personnellement, je trouvais ça plus désagréable qu'autre chose d'avoir ce côté... Ah, donc là, on va parler de ce truc touchy. Et du coup, bah, attention. Donc, en fait, pardon. Non, mais en fait, on va pas en parler comme ça. Nanana. Et du coup, je suis là, mais pourquoi tu fais le film? Pourquoi toi, tu choisis de le faire? Qui d'autre aurait été plus apte de le faire au final? Tu donnes la parole à des gens, mais au final, on revient toujours. Et moi, j'étais hyper gêné. Les scènes de sexe dans le film m'ont mis trop mal à l'aise. Je sais pas, il y avait ce côté genre, on pense, allez, on baise. Et j'étais genre, ah oh, je sais pas, ça me mettait pas du tout à l'aise. Alors que, pourtant, comment cet aspect, genre le domaine queer et tout ça, genre je le trouvais trop intéressant. Parce que moi, genre j'ai des amis queer avec qui j'ai pu discuter et qui sont afropéens ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont un rapport à l'identité qui est complètement différent. Et le personnage de Guillermé, ouais, ou de Guy, je sais plus, il est super intéressant parce que il apporte cette dimension-là. Cette dimension, j'ai l'impression que c'est une couche supérieure. Genre, quand je discute avec des amis queer, en fait, il y a ce côté, genre, moi, genre, j'ai ce rapport à mon identité qui est un petit peu, des fois, torturé. Et eux, il y a une espèce d'échappatoire de l'identité qui se fait à un autre endroit que je trouve super intéressant. Mais, je sais pas, dans ce film-là. Bon, en fait, je pense que j'aimais bien les séquences documentaires. J'apprenais quelques petits trucs sur le pays. Mais il nous laissait peut-être pas assez le temps, des fois, au personnage même de faire des erreurs avant de pouvoir s'en excuser. Et du coup, j'étais là, bon, bah, c'est bon. Si tu veux faire le mec performatif pendant tout le film, j'ai capté, tu vois.
Ouais, non, mais en fait, c'est hyper intéressant que tu dises ça. Parce que pour le coup, on n'en avait pas parlé avant. C'était la surprise. Et donc, typiquement, je veux pas... Ce qui est intéressant, je trouve, avec la réception du Ré Couteau, avec l'occasion qui est la sortie de la version longue d'en rediscuter, en fait, c'était que quand le film est sorti, en fait, il a fait une sorte d'unanimité. Enfin, dire, tout le monde a aimé le film. Il y a eu très peu de critiques négatives sur le film. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... peut-être qu'on a... Je trouve que ça lui a pas fait justice que de lui régler son sort aussi vite dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était pas à la hauteur des problèmes qu'il posait, déjà. C'était le malayer un peu rapidement. « Oh, c'est sympa, un film décolonial, voilà. Hop, allez, au suivant. » Et quelque part, on a vu ce que c'est un film décolonial, on n'en parle plus, parce que ça parle de racisme et ça parle de blanchité, et voilà, ça suffit presque. Et je trouve qu'en fait, on l'a fait un peu trop vite. On a dit un petit peu que le film était formellement très... très soigné.
Oui, en fait,
en même temps.
Tout ce que j'ai dit, c'était vraiment typiquement les louanges des presses françaises, quoi.
Oui, complètement. Et là, ce qui est intéressant.
Je suis dedans aussi.
Non, mais justement, là, le fait qu'on en parle 6 mois après, le regard, je trouve, ça nous amène à avoir des discussions qui sont différentes. C'est-à-dire que tout ça, là, c'est vrai que c'est important de le dire au début pour la conversation, mais c'est vrai qu'on peut passer à l'étape suivante qui est de dire, ah tiens, tu vois, dans l'entretien que tu as fait, qui est très bien parce que tu vas le chercher aussi sur ces questions, sur ces petits angles morts, potentiellement ces contradictions, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui a envie aussi qu'on accueille ça, parce que le film sert à ça, quelque part. Et ben, c'est que ça met en lumière, quelque part, moi je trouve que mon premier réflexe cet été, c'était de me dire, ah c'est super que ce soit un film qui fasse la part belle à une forme de polyphonie, quoi. C'est un mot qui est revenu plusieurs fois, donc l'idée qu'il y ait plusieurs voix. dans le film. Et l'idée que en fait, son personnage, c'est une sorte de prétexte presque pour rencontrer d'autres personnages. Voilà. Et en même temps, il y a cette tension, et que tu l'as très bien dit, c'est que, en fait, ok, on se sert de lui, et finalement, on s'en fout un peu, parce que les personnages les plus intéressants, c'est pas lui, c'est les autres, mais c'est quand même lui. Enfin,
il n'y a pas de passage à un autre personnage, j'en parlais tout à l'heure, je disais genre un film que moi j'adore et qui je trouve a bien fait ce travail-là, c'était Augure de Balogi, parce que on passe directement à un autre personnage, et il en parle très bien, Balogi, il dit en fait, moi j'ai voulu faire croire à un film du retour au pays natal, avec son premier personnage qui s'appelle Kofi, je crois, qui vient de Belgique, qui arrive au Congo, et là il se rend compte sa famille, ça se passe pas bien. Et en fait, le film, mais il n'est pas là pour nous parler de ça, il est là pour nous parler de la condition des femmes au Congo, il est là pour nous parler genre de l'histoire dans les mines, de choses comme ça. Et on part sur d'autres personnages qui sont hyper intéressants, et on revient à Kofi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, là, dans ce film-là, on ne quitte pas le personnage. Enfin, si, il y a des fois, on le quitte un peu, et on voit ce que les gens disent sur lui et tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est un petit peu intéressant comment les gens l'ont bien accueilli, ce film-là. Parce que, alors, Pedro Pino, moi, je ne remettrai pas forcément en question genre, ce qu'il a fait par rapport à ce film-là. Je trouve que c'est intéressant, j'aime bien sa démarche à lui. Par contre, la démarche peut-être plus de la critique, je serais là genre... Les gars, c'est trop facile. C'est que vous avez un film avec un blanc qui s'autofagèle et du coup, vous êtes trop content en mode genre, regardez comment on est bien pensant, on l'a trop bien fait. Mmh. Et en fait, genre...
Sergio est un choix facile à suivre.
C'est ça, parce qu'en fait, on va être là pendant tout le film. Il se prend des réflexions que même moi, j'ai pu me prendre des fois de... regarde, il essaye de s'intégrer, machin, nanana. Alors moi, c'est complètement différent parce que je suis métisse et donc j'ai une mère qui vient de là-bas. Des fois, il faut rappeler, non, je suis pas antillais. Je suis... je viens d'ici. Genre, mon grand-père est Bijago, ma grand-mère est Peul. Genre, je suis d'ici aussi, et il y a une revendication à faire, mais là c'est un autre jeu. Donc on prend un pays d'Afrique de l'Ouest qui il s'avère que c'est la Guinée-Bissau, mais est-ce qu'on a vraiment un portrait de la Guinée-Bissau? Je suis pas sûr. On a peut-être plus le portrait de comment l'homme blanc aussi pourra se projeter dans l'Afrique décoloniale. Parce que je trouve que le film, c'est chouette de reprendre toutes les questions qu'on a aujourd'hui, mais autant j'attends pas de réponse, mais j'attends peut-être, je sais pas, le point de vue du gars, comment il se positionne par rapport à ça, un peu plus clairement, plutôt qu'un personnage qui vadrouille comme ça.
Je pense que son approche pour décentrer le regard, c'est le fait d'empêcher l'immersion totale dans le récit. Même si on suit tout le temps Sergio, on n'est pas tellement immergé dans son environnement. Donc, de manière assez récurrente, la temporalité du récit nous déstabilise. Donc, on ne sait pas combien de temps a passé entre une action ou une scène entre l'autre. Donc, on est assez déstabilisé, je pense, par rapport à ça. Et je me demande si, justement, si on était plus immergé dans le quotidien d'un autre personnage, est-ce que ça aurait été une sorte de recentralisation de l'exotisme? Donc, parce que je pense que plus on regarde le quotidien d'un personnage, noir ou habitant de Guinée,
indigène autochtone,
c'est très facile d'avoir une fausse immersion en tant que spectateur. Je pense que si on suivait tout le temps, disons, Diarra, ça aurait pu une autre manière de faire une sorte de portrait très exotique aussi. Donc ça, je pense que c'est plus pour éviter cette expérience qu'il préfère alterner ou prendre de voix un peu ailleurs.
Ouais, c'est comme si les deux options, il n'y en avait aucune qui était pleinement satisfaisante, puisque de la part de Pedro Pino, s'il filme donc Sergio, il reste à sa place quelque part, donc est-ce qu'on change complètement de coordonnées, ça reste un regard blanc porté sur l'Afrique occidentale et tout, ou alors si il fait quand même son film, mais il ne filme que Diarra ou que Guillermé, ça aurait fait aussi très bizarre, voire peut-être été pire. Donc,
je pense qu'en fait, des fois, c'est pas facile, parce qu'on pourrait limite en venir à la conclusion de pourquoi un Portugais ferait un film sur la Guinée-Bissau au final. Et bon,
c'est pas une perspective hyper.
C'est un peu genre tu vas pas interdire au mec de faire ce film là.
Mais pour compléter ce que tu dis, justement, ce débat là, il est vraiment, je pense qu'il va revenir dans tellement d'émissions qu'on va faire dans cette revue et dans tous les textes qu'on va travailler. Je pense pas qu'on va résoudre la question aujourd'hui.
L'aspect de l'intérêt du film même, genre.
Ouais, non, je veux dire la légitimité de la démarche. que suppose une démarche décoloniale qui est en fait, l'abandon de la centralité européenne ou blanche. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, peut-être qu'il faut arrêter simplement de faire les films à la place des autres. Il y a cette démarche-là très radicale, je ne vous cache pas, mais je ne suis pas complètement d'accord, parce que je pense qu'il y a quand même des récits aussi à avoir du point de vue. Et puis nous, je veux dire, on est à Paris, on parle quand même au nom de ces questions-là. Donc, bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est en fait, c'était l'objet, je voulais le citer quand même, cet article-là, qui a été publié il y a 3 semaines, je crois, sur le lundi matin, un texte de Sylvain Georges, très long, assez compliqué, je veux dire, dans la manière d'apprendre les choses, mais si je devais résumer la chose sans lui faire complètement justice, ce serait de dire que, justement, c'est un film performatif, qui performe son propre autocritique pour, quelque part, désamorcer la critique qu'on peut lui faire. Et donc, pour ne pas
je
remettre
suis un
en
peu
question...
D'accord, ouais, je suis un peu d'accord.
Sylvain Georges, on arrive à la conclusion assez osée, je vais pas dire ça, hot take, Le Récouteau serait, donc, selon lui, un film colonial. Pur et simple, bon, il en arrive à ce point-là. Je ne suis pas complètement d'accord, mais je trouvais ça intéressant d'amener cette discussion-là aussi ici, par se dire que c'est vrai qu'il y a un peu un contre-feu de l'unanimité de la critique l'été dernier, et là, OCA, le temps a passé, peut-être qu'on en parle autrement. Moi, je pense, je vais vous donner mon avis dans ce débat, c'est que ce n'est pas tant... Alors, que ce soit un film colonial, ou de l'autre côté, ça j'ai lu ça dans les Inrocks, mais bon, c'est pas les derniers à chaque fois à faire ce genre de truc, que Le Récouteau, ils ont écrit, est une utopie.
J'ai pas vu ça et voilà. C'est un peu osé.
Que le film propose une forme d'utopie, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que voilà, mais que en gros la forme qu'il choisit, tu vois, polyphonique, serait justement un horizon désirable. Voilà. Alors je pense que ça c'est un peu facile parce que c'est pas le film. Enfin, le film moi me laisse pas avec un sentiment utopique. Je sors pas en me disant waouh, je veux habiter. Enfin c'est quand même des nœuds, mais ça me passionne, mais voilà. Mais je pense qu'entre les deux, entre le film colonial et l'utopie décoloniale, il y a peut-être
l'entre-deux,
des nuances à aller nous essayer d'aller chercher. Quoi.
Bah, je pense que pour avoir fait un film qui se passe en Guinée-Bissau, raconter l'histoire que j'ai avec ce pays-là, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre un peu ce truc-là qui relève vraiment plus de comment les gens habitent leur propre identité. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un film où le mec il fait que osciller, dire à la prostituée avec qui il couche « j'aimerais être comme toi », ça y est. Bon, en fait, apprenez à être vous-même et à vous présenter aussi avec cette identité-là. C'est pas simple. Et j'en ai fait un film, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas faire l'écueil de ce truc-là. On peut pas avoir juste un personnage qui est... un outil pour se trimballer comme ça, il faut qu'il ait une personnalité qui soit horrible ou qui soit un mec super sympa. Mais Sergio, moi, je le comprenais pas, genre les moments où il est vraiment ornibiste, en mode genre « hey, hey !» et les moments où il est hyper réservé, hyper à la R, hyper bienveillant. Ou alors à l'inverse, des fois, il est énervé de trucs où je me dis « bon, ça va », genre le bruit à côté dans l'hôtel et tout ça. J'ai du mal à saisir genre, l'évolution de sa pensée, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'évolution de pensée, il y a constamment un dilemme. Le dilemme, bien sûr, il est là. Mais il faut des vraies réactions. Et moi, les seuls moments où je le voyais vraiment agir, c'était dans des scènes de sexe. Donc, je trouvais ça trop bizarre.
Et écoute, du coup, tu as découvert aussi la version intégrale. Est-ce que tu as eu le sentiment que toutes ces réserves, elles sont décuplées dans la version intégrale? Est-ce que tu nous, en quelques mots, est-ce que tu nous parlais un peu de la différence qu'il y a? Car il y a des différences assez majeures entre les deux versions.
D'abord, le montage est différent. L'ordre de certains événements sont différents. Il y a aussi une visibilité plus prononcée donnée à Diarra et à Guillaume, justement. Même une séquence très longue entre une rencontre que Guy a fait lors d'une nuit avec un traducteur chinois, d'origine chinoise, qui vient installer à Guinée-Bissau, perturbe et gêne encore plus les spectateurs, je pense. Simon, tu as
Je suis entièrement d'accord avec toi. Mm-hmm.
C'est très difficile à regarder cette séquence, non pas parce que c'est difficile comme la scène de sexe de Sergio et cette travailleuse de sexe, mais plus dans le contenu, dans la réaction de personnages, parce que c'est comme un second degree gêne, comment on dit, je ne sais pas, mais deuxième degré. Donc c'est pas cringe, mais c'est difficile à regarder parce que en raison des réactions de traducteurs chinois. Mais il y a aussi des moments où Pignot va dans des directions assez philosophique, même métaphysique, dans des séquences très longues où des personnages qui n'existent pas du tout dans leur version courte discutent avec Guillaume sur la cosmologie.
Exactement, il y a un personnage d'anthropologue qui discute avec Guillaume.
Mais pourquoi c'est pas dans la vraie version ? C'est trop dommage.
Alors, c'est un monologue qui dure au moins une dizaine de minutes, à peu près.
Ouais, mais bon, le film a ça déjà. Moi, je me rappelle les monologues avec, comment il s'appelle ? C'est son nom, vous savez, l'entrepreneur...
ouais, c'est dont on parlait au tout début.
C'est Horatio, Horatio, je crois.
C'est Horatio,
exactement. C'est Horatio. Bah, y a des grandes scènes de discussion avec lui que j'ai trouvé intéressante, et je trouvais que c'était un personnage qu'on retrouve en réalité pas mal à Bissau.
J'aime bien ce personnage aussi.
Ouais. Parce que vraiment, genre, enfin, moi, quand je discutais avec ma tante ou pas mal de ses amis à Bissau, on a beaucoup cet aspect-là aussi. Les gens ici vont pas être capables de comprendre. Tu sais, il dit la connaissance qui vient d'en haut, quoi, en parlant un peu de l'Europe, tu vois. Et en vrai, bah, y a beaucoup ça. Et c'est une figure super intéressante à raconter, les gens qui essayent aussi des fois d'entreprendre à Bissau. Et en plus, bah, Diaria, son personnage, essaye d'entreprendre aussi. Et on a un passage là où il y a quelqu'un qui vient pour récupérer le terrain ou je ne sais quoi.
Oui, de leur bar.
De leur bar
et tout ça. Et c'est des choses qui arrivent vraiment, genre hyper souvent. Et ça, je trouve que c'est intéressant à raconter, en fait, parce que on n'est pas toujours, du coup, dans ces moments-là, confrontés à nos idées bien reçues et tout ça. Et c'est ces moments-là, en réalité, qui, je pense, font vraiment avancer, pas simplement le film, mais plus, genre, les esprits, de manière générale. Quand je discute avec ma tante, des fois, elle me sort des trucs, je suis là, genre, waouh, mais c'est hyper hard, t'es hyper dur avec les gens d'ici et tout ça, machin. Oui, mais bon, au bout d'un moment, nanana, tu te rends pas compte. Et en même temps, elle se rend compte des privilèges dont elle jouit au pays. Et en fait, là, c'était intéressant comment Horace, dans le film, il avait cet aspect-là un petit peu, des fois, qu'il vient dire « Oui, je me rends bien compte de la position que j'ai », et en même temps, m'en fous, quoi. Et cet aspect des sphères... des sphères bourgeoises...
Des pays du Sud, en général.
Des pays du Sud, c'est trop intéressant à traiter pour leurs contradictions et tout ça.
Oui, okay.
Pour reprendre un peu les scènes qui sont ajoutées, justement, il y a une autre séquence dans laquelle on rencontre deux propriétaires de l'hôtel.
Éco-responsables,
ce sont des propriétaires blancs. Justement, je pense que ça ajoute aussi beaucoup d'aspects à la conversation, à des problématiques du film. Mais j'avais l'impression que cette séquence en elle était intéressante, mais ne trouvait pas vraiment de la place au tissu du film, au tissu narratif du film. Ça créait quand même un déséquilibre. Donc je comprenais pourquoi ce film j'ai compris vraiment que pourquoi ces scènes n'étaient pas dans le film, même s'ils étaient pris isolés, de manière isolée, fonctionnaient bien. Mais dans l'intégralité, ça ne marchait pas très bien, je pense.
Effectivement, moi, j'ai aussi eu cette sensation-là, que ce sont des scènes qui sont passionnantes, mais qui viennent un peu casser le rythme, notamment parce que ça intervient en seconde partie du film. Je crois que dans la dernière heure, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, ça vient casser toutes les quatre premières heures, j'ai envie de dire. Et c'est un peu, du coup, c'est un peu étonnant qu'elles arrivent à ce moment-là, qu'elles soient aussi longue, mais je comprends que si on les isole à analyser, c'est assez passionnant parce que l'échange et les monologues sont assez passionnants. Mais c'est peut-être le problème du film dans sa version intégrale, c'est que les versants théoriques sont peut-être trop décuplés.
En fait, il y a deux choses là, ce que je retiens de ce que vous dites en vous écoutant. C'est la première, c'est que je me dis, il y a quand même le risque ou le danger d'avoir une fresque qui devienne un peu, je sais pas, le carnaval du néocolonialisme. Vous voyez ce que je veux dire avec...
C'est comme une copie de travail.
Voilà,
quoi.
Là, on a parlé d'écologie impérialiste, là, on a parlé de ça, là, on a parlé de ça. Et en fait, à la fin, voilà, on a un truc très complet, etc. Donc, alors que le film aurait peut-être pu s'autoriser des déséquilibres, genre à un moment, je vais parler que de ça pendant 45 minutes, et tant pis si, voilà. Mais ça aurait été intéressant, voilà. En tout cas, le film, il a ce risque-là. Bon, j'ai hâte quand même de voir la version longue parce que j'ai envie de voir ça à l'épreuve. Et tout, c'est pas quand même commun comme démarche. Et puis il y a un deuxième truc sur la question de la place du discours, parce que du coup c'est ça que ça donne les 5h30, enfin, c'est beaucoup de dialogue. On a reproché au film à sa sortie, et je comprenais cette réserve, de dire que c'était beaucoup, quand même beaucoup de dialogue filmé, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même une place très importante au dialogue, à l'échange. Et il dit un truc très intéressant, là j'ai vu l'interview que vient de sortir Parole d'honneur avec Pedro Pino, justement, où il dit un truc très simple. Il dit, en fait, moi, je voulais arrêter de jouer dans la subtilité, parce que la subtilité, c'est un truc, peut-être, qui peut aussi exclure les personnes qui ne savent pas de quoi la scène parle, si on ne dit pas concrètement ce dont la scène parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, l'idée, par exemple, que dans la scène de sexe, avec la prostituée au milieu du film, c'est pourquoi les personnages parlent, parce qu'à un moment, il fallait mettre des mots sur ce qui était en train de se passer. Et lui, sa stratégie de mise en scène, c'est de dire, en fait, en étant littéral, des couches supplémentaires vont apparaître. Que si on est subtil, en fait, il n'y a que la couche qui est suggérée qu'on va pouvoir voir, le de discours. Voilà, là, il y a un enjeu de domination coloniale, masculine, ce que vous voulez. Et en fait, au contraire, en forçant les personnages à être ultra explicites, à dire tout le temps les problèmes, en fait, tu es un blanc, en fait, machin truc, en fait, l'argent que tu n'as pas refusé. Écrit
un livre.
Et du coup, tout ça va offrir des couches.
Voilà. Ouais, c'est aussi, hyper intéressant. Ça devient beaucoup plus difficile à regarder. Donc, parce que tu ne peux pas fuir aux métaphores symboliques. Tu es frontal, tu es vraiment exposé au discours. Et je pense que du point de vue du spectateur, c'est beaucoup plus difficile.
En fait, c'est Pedro Fino, c'est le gars qui vous dit vous avez 3 heures. Est-ce que je veux dire ? Mais il pose une question, il dit vous avez 3h30. Là vous avez 5h30.
Je pense qu'il aime bien qu'on puisse bien comprendre exactement comment les discussions sont amenées, comment ce qu'il a voulu raconter, tout ça. Mais je pense que. Je sais pas, je pense que ça lui réussit peut-être pas trop à mon sens, hein, après. Mais en fait. Je vois, il y a des discussions qu'il y avait dans le film qui sont des discussions que moi aussi j'ai trouvées, que j'ai eues à Bissau et je me dis c'est hyper intéressant. Ça, c'est des vraies discussions qui devraient être débattues, machin, tout ça. Mais tout mettre dans un film, c'est un peu une forme de non-choix. C'est genre, je vous donne un échantillon de 5 heures de discussions qu'on peut avoir à Bissau. Et même pas juste à Bissau, hein. Des fois c'est plus une discussion plus diasporique avec Guy ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, dans ce cas-là, ça peut être un podcast. En fait, je sais pas. Moi, je viens des Beaux-Arts. Et je dis ça, je le dis pas méchamment parce que j'ai fait des études où on choisit notre médium par rapport à ce qu'on a envie de dire. Moi, je m'orientais pas du tout vers le cinéma. Moi, je dessine, je fais de la bande dessinée, je fais aussi du jeu vidéo, des choses comme ça. Et. En fait, quand il a fallu faire un mémoire, normalement c'est écrit, je me disais, ah, je vais dessiner. Et j'avais tellement de mémoire filmique par rapport à tout ce que je voulais raconter que je me suis retrouvé, je vais faire un film. Et c'était le premier film qui allait être fait à mon école, d'habitude c'est plus des textes. Donc il a fallu le défendre, ça va être un film, machin, nan, malgré le fait que ça soit très écrit. Et j'étais dans cette démarche de, j'ai choisi parce que le film était la manière la plus adaptée. Mais des fois, du coup, je regarde des films comme ça où je me dis, mais. Au final, est-ce que le film était le plus adapté, genre le film au cinéma comme ça, est-ce que c'était pas peut-être un documentaire que je voulais voir ? Les passages documentaires, j'ai trouvé trop intéressants.
D'ailleurs, c'est pas documentaire, justement. C'est ça qui est intéressant, je pense.
On dirait vraiment du documentaire. Ouais. Ah, ça, c'est fou, par contre.
Ouais. Il brouille assez les pistes. Pour lui rendre tout à fait honneur, quand même, il a fait d'autres films aussi sur ces questions de migration, des films politiques. Je sais que j'avais vu L'usine de rien à l'époque. Donc, on va dire qu'il n'a pas tout mis là-dedans. Il en a quand même mis beaucoup, on est d'accord, mais pour être tout à fait juste, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a un travail qui dépasse un peu ce film-là. C'est des questions qui vont revenir, je pense, et ça ne va pas s'arrêter avec ce film, je pense pas. Au contraire, là, j'ai l'impression qu'il a ouvert une boîte où il se dit « Ouh là là, il y a d'autres tiroirs derrière ». Et je trouve que c'est vraiment un très bon exemple, là, les avis qu'on a aussi, c'est une question un peu éditoriale. Qu'on va se poser aussi, c'est, vous savez, la question du film colonial, du film décolonial. Et est-ce qu'on peut mettre les films dans des boîtes comme ça aussi étriquées, des étiquettes un peu nulles ? Je pense pas du tout. Et ce film-là, c'est typiquement le très bon exemple de l'idée que la colonialité, au cinéma et même dans l'art, c'est un spectre, voilà, avec plein de nuances. Et donc, par exemple, faire un film portugais fait par un blanc sur un personnage blanc qui va en Guinée-Bissau, mais qui se pose des questions et qui, à la fin, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, où est-ce que tu le mets exactement ? Je pense qu'il est plutôt quand même du côté du questionnement et de la remise en question, et politiquement j'ai peu de doutes sur les convictions politiques de Pedro Pino, évidemment, mais c'est pas non plus c'est pas un exemple absolu d'un film décolonial, sinon ce serait plutôt un film fait par un bissau-guinéen de la ville qui parle des rapports,
je pense faut pas le chercher le film décolonial,
ça sert à rien, mais disons que c'est en termes de repères, tu vois, où c'est qu'on met le film, moi c'est ça que je me suis dit, et c'est vrai que plus j'y repense à ce film, plus je me dis c'est une bonne boussole aussi, alors que le film est un peu peut nous perdre, mais je trouve que c'est un bon repère pour commencer ce travail là tous ensemble, quoi, enfin vraiment de réflexion. On a ce film là qui est sorti, où est-ce qu'on le place et comment... En fait, on va le beaucoup, je pense que dans les années à venir, c'est un peu un pari nul, mais on va comparer ce film, les nouveaux films, on va les comparer aussi à sa démarche-là, à sa forme-là et à ce qu'il a essayé de proposer.
D'ailleurs, je ne pense pas que Pedro Pino veuille être le réalisateur décolonial ultime. C'est une sorte de titre qu'on lui projette. Et je pense pas qu'il sera très honoré ou ravi, parce que c'est son titre qu'il n'assume pas, je pense, dans le film.
Et puis, c'est décolonial selon qui, quoi.
Ouais. Et moi, je voulais juste ajouter un truc sur l'aspect documentaire, et que je pense que c'est aussi une sorte de critique ou une sorte de clin d'œil aux habitudes des spectateurs. Dès qu'on voit des habitants d'un village qui dans leur quotidien, on a tendance à dire « Ah oui, tiens, c'est un aspect documentaire ». Donc, c'est notre propre lecture qui est en fait problématique là-bas, je pense. Et le fait qu'il le pointe du doigt... est intéressant, je pense.
Le film est déjà sorti. Pour celles et ceux qui voudraient le voir ou le revoir, il est disponible en DVD Blu-ray depuis le 3 mars. Quant à la version intégrale, aucune information n'a été communiquée pour le moment.
On dit que ça n'allait pas forcément sortir en salle, c'est plus des séances spéciales. Quoi.
Séances spéciales, et peut-être, si ça marche, peut-être une sortie physique, mais il n'y aura pas de sortie officielle. C'est le moment pour nous de passer à la minute recommandation culturelle. Il me semble que Corentin et que vous avez eu peut-être des récents coups de cœur à partager avec nous.
Ouais, bah on va faire ça à chaque émission un peu cette idée pour ouvrir un peu sur des choses qui sont pas forcément que des films, parce qu'on ne fait pas que regarder des films, mais presque. Du coup, moi, je voulais recommander le deuxième ouvrage de Louisa Yousfi, donc a fait pas mal parler de lui, La Grande Méthode, du coup, qui est un ouvrage qui est sorti fin février aux éditions La Fabrique. Donc Louisa Yousfi, moi j'avais découvert avec Resté Barbare, qui était publié en 2022. Je pense qu'il y a un essai qui a parlé à pas mal de gens dans la revue, forcément parce que ça touche à des questions culturelles, esthétiques et politiques, et l'articulation entre tout ça. Et c'était un ouvrage qui essayait comme ça, je sais pas comment le décrire, mais... avec plein de mots d'ordre, avec plein de lignes de conduite ou des pistes, on va dire, d'attitude, ce serait quoi une esthétique indigène, quoi. Voilà. Ce serait une esthétique indigène dans l'Empire. Et du coup, elle prenait PNL, elle prenait des exemples comme ça, littéraires ou dans la musique. Et là, ce qui est intéressant avec La Grande Méthode, c'est qu'en même temps, ça n'a rien à voir, parce qu'on n'est pas du tout sur un essai, on est vraiment sur une écriture, alors c'est difficile à classer. Mais c'est une sorte de prolongement où c'est un peu l'idée que, en fait, dans les mots d'ordre qui étaient mis dans Rester Barbare, il faudrait une esthétique indigène, et bien elle réalise quelque part ce qu'elle a dit qu'il fallait faire. Voilà. Ça, c'est un ouvrage, typiquement, qui essaie de saisir quelque chose de très précis, qui serait, on va dire, alors je l'ai nommé, je l'ai écrit comme ça, c'est écrit, je ne vais pas faire semblant comme si je sortais ça comme ça, l'âme contrariée des descendants diasporiques. Voilà. Et nos contrariétés en tant qu'occidentés, là je cite, elle les appelle comme ça, les occidentés, pour essayer de sonder ça, en l'occurrence, vis-à-vis de son rapport à l'Algérie, notamment, et après le décès de son père, une forme fragmentaire, on va dire très percutante dans l'écriture. C'est quelque chose qui, forcément, on se retrouve beaucoup, nous, puisqu'on écrit aussi sur ces questions, sur l'esthétique, sur la politique. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé, surtout sa manière d'essayer de décrire pourquoi on écrit, justement. En fait, pourquoi on prend dans la plume et on essaie de dire des choses sur des images, pour décrypter un petit peu le secret, sans jamais complètement le vider de son sens aussi. On ne veut pas tout résoudre, en fait, quand même, on essaie de décrire sur ces choses-là. Et donc voilà, ça, je trouve que ça introduit, et ça on en reparlera, je pense, on aura l'occasion, aussi une question à l'échelle des luttes décoloniales, qui est la question de l'esthétique, la question de la croyance, du spirituel, qui est une question, vu qu'on est un peu... quand même, on a des tendances matérialistes à gauche, on parle de structure, on parle de rapports économiques, de situations concrètes, de racisme structurel. Ne pas délaisser complètement l'esthétique et son rôle dans la culture, mais bon, je pense que là, je prêche à des convaincus autour de la table. C'est un peu ça, la conclusion que je tire du livre, en tout cas, et son envie de... Mais voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est un livre qui a plein de surprises et qui est difficilement résumable de toute façon.
Moi, je vais recommander un livre de une littérature, une fiction, parce que depuis pas mal de temps, j'arrivais pas à lire des romans et ça me manquait énormément. Et j'ai découvert ce livre par hasard, comme ça, je me souviens pas. C'était juste, j'ai vu les couvertures et j'avais envie de le lire. Mais je pense que c'était un livre assez populaire, qui a eu de prix aux États-Unis. Le livre s'appelle Martyr, et il est écrit par... Le roman s'appelle Martyr, et il est écrit par un poète et romancier d'origine iranienne-américaine, Kaveh Akbar. Il parle d'un poète dans un trentenaire et qui a eu un passé assez dur avec l'alcoolisme et la dépendance aux drogues. Donc on le retrouve dans un moment où il questionne sa vie, son existence et ses ambitions et sa place dans le monde. Donc on apprend que sa mère a été tuée dans un attentat commis par les États-Unis. Donc il n'arrive pas à surmonter ce traumatisme et il commence à s'intéresser au concept de martyr, donc de figure de martyr dans l'histoire de son propre pays. Mais je pense que l'aspect le plus intéressant du livre est qu'il est assez conscient de certains stéréotypes des identités diasporiques, donc des gens qui ont grandi ailleurs, mais qui commencent à s'intéresser ou explorer leur culture d'origine. Donc il est très explicite et très conscient de cette position de son personnage principal. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a fait de différents... il amène aussi de différents points de vue dans différentes temporalités, des discussions imaginaires, des poèmes. Donc, c'était une découverte après une longue pause une longue période de lecture très théorique. Donc, ça m'a fait du bien. Et je pense que je me sens assez connectée à l'idée aussi de vide, qu'une sorte de dépendance, que ce soit alcoolisme ou autre chose, crée en nous et comment la quête d'identité peut se manifester dans différentes formes.
Merci. Et comme on a la chance aujourd'hui d'avoir un invité, cette minute recommandation culturelle, c'est aussi l'occasion de parler un peu plus de notre invité, Orfeo Gagliardini. Est-ce que tu veux parler un peu de ton travail, de tes recherches ?
Bah, je pense qu'intéressant, là, c'est de parler du film que j'ai fait. Parce que vu tout ce qu'on a pu dire, il y a plein de petits points de rebond à faire. Le film que j'ai fait, je l'ai fait, c'est mon mémoire de fin d'études. Donc, au terme de 5 années en école d'art et de design à Orléans. Je pense que c'est intéressant parce qu'il se recroise un petit peu avec Martyr, certaines choses qui ont pu être dites sur la quête d'identité. En fait, ce film, avant tout, il est fait pour moi et ma famille. Et puis, il a été montré au FRAC Centre-Val de Loire, à la IR, à Strasbourg, et puis quelques petits endroits par-ci, par-là en France, et puis dans mon école, évidemment, au moment de mon diplôme. Et c'est un film en fait, qui retrace. Tout le parcours que j'ai pu avoir moi personnellement avec l'histoire de ma mère. En fait, donc ma mère, elle vient de Guinée-Bissau, donc pays dont on parlait juste avant avec Le Rire et le Couteau. Et en fait, elle a vraiment coupé les liens avec ce pays-là. Et en fait, au lieu de simplement donc raconter cette coupure, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que très tôt, je lui posais beaucoup de questions et je me suis un peu vite dit écoute, elle veut pas m'y emmener, il y a un rapport qui a l'air compliqué avec ce pays, donc elle va m'expliquer comment c'est et puis moi je dessinerai à quoi il ressemble ce pays qu'elle me décrit. Donc il y a eu un pays imaginaire qui a très vite été créé, et ça, quand je parle très vite, c'était vers 6 ans quoi. Et donc je faisais des petits livres comme ça, mais vu que c'était beaucoup de poser ces questions là et puis de réussir à les assembler, je filmais ces recherches là et en fait toute cette recherche qui a continué jusqu'à quand j'étais en études supérieures, elle a été documentée. Donc ça a donné lieu à une forme de film documentaire qui retrace toutes ces époques de l'enfance à la vie adulte, là où je décide enfin de confronter tous ces dessins qui ont été faits, mon imaginaire, au pays de ma mère, avec les gens sur place, en rencontrant ma famille pour la première fois. Donc c'est des moments très très forts, là où je connaissais même pas le visage de mon oncle, ma tante, je les rencontre pour la première fois. Et je raconte ça, en fait, comment aussi l'imaginaire, il est très important. Donc ce film-là, il s'appelle Poilon. Donc ça, c'est le titre un peu en portugais, en créole, on dirait Polon. C'est un arbre qui est très, très connu en Guinée-Bissau, que ma mère m'a toujours décrit. Et c'est dans le film, vous pourrez découvrir en quoi cet arbre-là est venu sillonner en fait toutes ces recherches là, que ce soit par l'imaginaire, ces paysages imaginaires là et les paysages réels que j'ai pu voir dans mon premier voyage.
Est-ce qu'on peut découvrir ce film quelque part ?
Alors pour l'instant, il faut juste m'envoyer un message si on veut le voir. Mais si jamais, et je passe l'appel, la bouteille à la mer, s'il y a des gens qui sont intéressés pour montrer le film, n'hésitez pas. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément de le faire produire ou quoi que ce soit. J'aime bien l'aspect aller le présenter. Je suis très à l'aise à l'idée de le faire, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà.
Bon, on fera les entremetteurs avec plaisir, voilà, avec si plaisir. Jamais. Et t'as aussi un Insta où on peut voir tes dessins parce que,
oui, ouais. Alors mon Insta c'est orfeo.gagliardini, c'est mon prénom et mon nom.
On va faire la pub.
Voilà, là-dessus vous verrez surtout beaucoup de travaux de dessin et puis de ce que je prépare pour la suite, donc des travaux plus de bande dessinée. Voilà.
Oui, merci beaucoup. C'est donc la fin de ce premier épisode. Merci à toutes et à tous. Également merci à Elena Aletkeno pour l'aide à la conception de l'émission, ainsi que Occitane Lacurie pour le montage de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, évidemment, on ne peut que chaudement vous inviter à nous laisser quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou à nous laisser un commentaire pour interagir. Autrement, je rappelle qu'Emitai, c'est une revue associative et bénévole. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à nous soutenir en participant à notre cagnotte. Les dons mensuels ou les dons ponctuels sont les bienvenus. Pour découvrir nos derniers textes, que ce soit des critiques, des essais, des entretiens, rendez-vous sur le site emitai.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, Emitai Revue, tout collé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le deuxième épisode. À bientôt.